au café, c'est un peu ma mamie aussi, parce que voilà. On s'est connus la première fois à cause de la chorale, hein, c'est ça. Ouais. Donc, vous voyez, l'idée de témoigner, d'être dans une chorale de la ville, c'était pas de la grande évangélisation, de prêcher, d'inviter des grands orateurs, mais simplement d'être dans une chorale d'une ville, ça peut faire des contacts. Et aujourd'hui, après des années, Denise est là, et voilà, elle a rencontré le Seigneur. Pas du tout pour me mettre en avant, mais simplement pour des choses toutes simples, sans d'aller dans une chorale, vous voyez. Puis après, le contact est venu, et puis on a fait une comédie musicale, on a fait plein de choses, voilà. Et là, j'aimerais vous encourager vraiment ce matin, parce que moi, des fois même, je crois que c'est plus possible aujourd'hui d'annoncer l'Évangile simplement à ses collègues de travail, à ses voisins, parce qu'on ne voit plus beaucoup vraiment de conversions, je trouve, radicales et engagées, et on a un peu de peine dans notre témoignage, on n'y croit pas trop, et j'aimerais vraiment vous encourager ce matin que c'est possible. Cette semaine encore, les fameux voisins dont j'avais parlé à certains, qu'au lieu d'aller les engueuler parce qu'ils faisaient du bruit, puis ils buvaient de l'alcool tard, puis nous empêchaient de dormir, et puis on aurait pu leur dire quand même... Allez, arrêtez un peu de respect pour les voisins. Bien, on a plutôt été boire des verres avec eux. Mais on s'en est fait des amis, au lieu de se faire des ennemis. Et aujourd'hui, pour la première fois cette semaine, eh ben, notre voisine est venue. Elle n'est pas convertie encore. Bientôt, bientôt, ça vient. Mais et on l'a invitée pour une soirée sur le pardon au Café & Co. Et figurez-vous que ça existe encore, un voisin, une voisine non chrétienne, loin de l'église, qui quand on l'invite pour une soirée sur le pardon de l'église, dans le Café & Co, elle nous répond « Oui, ça m'intéresse, je viens. » Puis deuxième miracle, parce que ça, ça s'est passé souvent des gens qui nous ont dit oui, mais c'est qu'à l'heure dite du rendez-vous, ils ne sont pas désistés et ils viennent vraiment. Ça, c'est vraiment le vrai miracle. Parce que des gens qui ont dit oui, il y en a eu plein. On se rappelait d'un temps avec Catherine où on a eu pendant 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus si c'était à Morée ou à Montigny déjà, mais en temps de grâce, on avait eu 17 contacts en cours. On n'avait jamais vu ça. Et sur les 17, il n'y en a qu'un qui a suivi. Rien, donc les hauts, les bas, hein, on connaît. Mais là, cette semaine, une voisine tout simplement d'oser, Catherine a juste envoyé un SMS, disant, est-ce que ça t'intéresserait de venir, après avoir joué à la pétanque et bu des verres, venir une soirée sur le pardon? Elle n'a pas dit ça dans le SMS, c'est moi qui le dis, parce qu'il faut préparer le terrain. Elle a répondu, oui, ça m'intéresse. Elle est venue, elle est rentrée, elle n'a pas arrêté de louer à Fontainebleau, de nous remercier d'une soirée comme ça. Elle dit, mais qu'est-ce, je ne pensais pas que ça existait, enfin, une soirée comme ça, quoi, où je peux être avec 10 amis bien contents. Il y avait Jessica qui était là. Juste une soirée où on parle comme ça, il y avait Océane aussi. Juste une soirée où on est comme ça. Il faut imaginer qu'on a des hommes et des femmes aujourd'hui qui n'ont pas l'idée, des gens qui sont pris dans des divorces, des remariages, de l'alcool, des trucs, la vie normale de beaucoup de gens aujourd'hui. Eh bien, ils n'ont pas l'idée qu'on peut vivre une soirée avec 10 personnes, sans histoire, sans tension, en riant, sans alcool, en faisant super, en rentrant, et puis que si elle parle trop ou si elle dit quelque chose de déplacé, elle est aimée la même chose, elle se sent acceptée. Et c'est incroyable de voir comme les gens, ils peuvent être régulés naturellement, dans la plupart des cas, des fois ce n'est pas toujours comme ça, mais la plupart des cas, ils arrivent à être régulés très vite dans le groupe, d'extravertis ou d'une vie un peu folle qu'ils avaient, de pouvoir finalement accepter, ressentir l'amour, être accepté. J'aimerais vraiment vous encourager pour vos voisins, vos amis, vos collègues. C'est possible. Aujourd'hui. Et que si chacun de nous ne vise qu'une personne, on est 70 ce matin, vous imaginez, l'année prochaine, on est 140. Une seule personne par année, invitez vos voisins, envoyez des SMS, ça vaut la peine. J'aimerais vous poser une question ce matin. Alors, je ne commente pas et je n'explique pas la question, et je vous demande juste de lever la main, c'est tout, on ne va pas en discuter. Qui a dans sa vie déjà eu une fracture? Levez la main. Qui a déjà eu une fracture? Merci. Deuxième question, qui a déjà eu une casse dans sa vie? Levez la main. Merci. C'était juste le but de vous faire cogiter, c'est tout. On va lire un texte biblique qui parle d'une casse, d'un serviteur de Dieu. Et mon thème ce matin, c'est de parler de la tendresse et de la bienveillance de Dieu au cœur de nos crises. La tendresse et la bienveillance, la toute provision, la toute suffisance de Dieu au cœur de nos crises. Parce que s'il y a des temps de nouvelle naissance, s'il y a des gens ou des voisins nous disent « oui, c'est super, je viens », s'il y a des temps où on retrouve des amis, il y a d'autres temps où c'est difficile, où c'est dur. Et ici, on n'est pas dans l'église pour la méthode Coué, pour dire tout va bien, tout va bien, tout va bien, Dieu, bon Dieu, puissant Dieu. Ça, c'est vrai, hein, tout ça. Mais il y a des moments où c'est dur, où on ne croit plus, où on ne sait plus, où on a des doutes, où c'est difficile. Et c'est là que c'est intéressant si notre évangile, il tient le coup, si notre Dieu, il tient le coup, si notre foi, elle reste présente dans ces moments-là. Quand tout va bien, ce n'est pas compliqué. Si on a une super convention, un super orateur, tout est beau, les miracles, tout ça. Ce n'est pas là quand Dieu guérit, quand Dieu répond que c'est facile. C'est quand on a l'impression que Dieu est silencieux, on se bat tout seul, que des fois même des amis chrétiens nous lâchent ou pire, nous font un coup de poignard dans le dos, etc., ou des amis proches qui... Voilà, puis ou même, quand on parlait du pardon, Catherine parlait là au Café & Co, des fois, ça fait tellement mal ce qui s'est passé, qu'on voudrait bien pardonner, on sait même qu'on doit, qu'il faut, mais c'est tellement celui qu'on aime ou qui est proche de nous, un ami, et ça fait mal, plus c'est proche, et bien on n'arrive pas. Donc au cœur de nos crises, vivre, et je pense qu'il y a quelques enseignements dans ce fameux texte d'Élie que vous connaissez pour la plupart, je pense bien, on va relire ensemble, vraiment des clés. Et j'espère vous faire découvrir, moi j'ai redécouvert quelques clés, quelques perles vraiment de ce texte, que les plus grands manuels actuels des dernières découvertes de psychologie ou de psychiatrie disent les mêmes choses que ce vieux texte de plus de 2000 ans. Donc j'invite à ouvrir vos Bibles ou vos smartphones ou tablettes ou autres dans 1 Roi 19. Un texte un petit peu long mais qu'on veut lire, c'est 15 versets qui sont vraiment précieux à lire, plein de richesses. Je vais essayer de le lire lentement et qu'on soit attentifs les uns les autres à ces perles que vous pouvez déjà repérer. 1 Roi 19, 1 à 15. Le roi Achab raconta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait mis à mort tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya alors un messager pour avertir Élie en ces termes. Élie, si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas fait la peau, comme tu l'as fait à ces prophètes, que les dieux m'infligent les plus terribles des punitions. C'est vraiment une parole de malédiction prophétique à l'envers qu'elle prend sur elle. Elle invoque tous les dieux à la traiter dans la plus forte des rigueurs si elle n'a pas tué Élie. Élie, il apprend ça, il prend peur. Et accompagné de son serviteur, il s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rend à Beersheba, dans le pays de Juda, et là, il laisse son serviteur. Puis il marche seul pendant une journée dans le désert, et il s'assoit sous un arbuste en genêt. Il souhaite mourir et dit « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez, ça suffit, reprends ma vie, je n'ai pas fait mieux que mes pères. » Intéressant cette comparaison. Il se couche et s'endort sous le genêt, mais un ange vint le toucher et lui dit « Lève-toi, mange !» Il voit en effet près de lui un de ces pains plats que l'on cuit sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Après avoir mangé et bu, il se recouche. Mais l'ange du Seigneur revint à nouveau le toucher et lui dit « Lève-toi encore, mange encore, car tu devras faire un très long voyage. » Élie se leva donc pour manger et boire, puis avec la force trouvée dans ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Arrivé à l'Horeb, Élie entra dans une caverne. Il quitte le désert, il marche seul, il se sépare de son serviteur, il marche 40 jours et pour entrer dans une caverne. Tout ça c'est physique et psychologique bien sûr et prophétique. Il y passe la nuit, alors le Seigneur lui adresse la parole. Pourquoi « Es-tu ici, Élie ?» Il répond, « Seigneur, Dieu de l'univers, je t'aime tellement, » j'aime beaucoup cette traduction du français courant, vous n'avez peut-être pas ça dans vos bibles, mais « Seigneur de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter de voir les Israélites, comment ils agissent. » Jackie, ça me faisait penser à toi dans ce verset, c'est Dieu, on pourrait dire, Jackie qui dit, « Seigneur, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter comment va la France. » En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent même à me tuer. Alors, c'est pas jusque-là, Jacques, c'est que le début du verset. Sors, lui dit le Seigneur, tu te tiendras sur la montagne, devant moi je vais passer. Aussi, un grand vent souffla avec une violence telle qu'elle fondait les montagnes. C'est un vent, pourquoi c'est elle ? Tel qu'il, pardon. C'est la tempête, elle, c'est le vent, c'est il. Fendait les montagnes, brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas présent dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas présent dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur n'était pas présent dans le feu. Après le feu, il y eut un bruit d'un souffle léger. Et dès qu'elle y l'entendit, il se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit de la caverne, se tint devant l'entrée, et il entendit de nouveau une voix qui disait, « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répondit, « Seigneur de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter de voir comment les Israélites agissent. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent encore à me tuer. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, retourne par le même chemin à travers le désert, rends-toi à Damas. » Et il ajoute au verset 18 cette parole, « Je laisserai survivre 7000 hommes du peuple d'Israël, à savoir tous ceux qui ne seront pas mis à genoux devant le dieu Baal et n'auront pas donné de baiser à ses statues. » Voilà. Tendresse et bienveillance de notre Dieu dans les situations de crise. Alors j'aimerais faire quelques petites notes comme ça maintenant, déjà avant d'entrer dans le cœur du sujet, sur ce texte qui peuvent nous aider et nous parler. Comme toujours, hein, essayez de repérer qu'est-ce que Dieu vous dit ce matin par cette prédication. Il ne dit pas la même chose à tous, vous n'avez pas besoin de tout retenir, mais il y a certainement une parole précise que Dieu vous donne pour vous, pour votre situation, qui si vous la saisissez et la pratiquez, elle va être une source de vie, de liberté, de guérison pour chacune de nos vies. Donc saisissons-la. Première chose, un encouragement répété par deux fois de Dieu pour son serviteur dans la crise, par un ange. Hébreu, pour ceux qui prennent des notes, Hébreu 1,14 nous dit ceci des anges. « Ne sont-ils pas des envoyés au service de ceux qui doivent hériter du salut ?» Nous sommes, jusqu'à nouvel avis, jusqu'à nouvel ordre, de ceux, ici ce matin, tous, de ceux qui doivent hériter du salut. C'est notre vocation, on doit hériter du salut. Eh bien, mes amis, extraordinaire nouvelle déjà de la provision de Dieu, les anges, l'armée céleste des anges, est là, sont là pour exercer un ministère en faveur de toi, en faveur de vous, en faveur de nous. Vous imaginez, les anges sont là. Nous, les évangéliques, on est un peu moins mystiques hein, que les catholiques sur les choses comme ça, etc. Et il faut le dire, c'est biblique. Les services, le service des anges, les services secrets, les services d'ambassade de Dieu, hein, tout ça, là, ce qu'il a à sa disposition, c'est une armée d'anges, et leur ministère, leur service, c'est un service pour être en notre faveur. C'est extraordinaire, on dit souvent que Jésus intercède pour nous. C'est extraordinaire, c'est un service de la provision de Dieu. Jésus intercède pour nous. Extraordinaire à se rappeler. Même quand je ne peux pas, même quand je ne sais pas, même quand je ne vois pas, même quand je n'entends pas, Jésus intercède pour moi auprès du Père. Et les anges, mystérieusement, je ne sais pas comment, mais ils sont envoyés pour exercer un ministère en notre faveur. Émilie, elle me disait hier soir que quand elle est venue une des fois là, elle a vu derrière quelques-uns, je ne dirais pas des noms, d'entre nous, une grande lumière comme ça tout d'un coup pendant le culte ou pendant une réunion. Eh bien, je lui dis, c'est peut-être un ange comme ça. Hein? Tout d'un coup, pourquoi Émilie, d'un coup, elle verrait derrière quelqu'un comme ça une grande lumière, une grande aura de lumière. Ce n'est pas la sainteté d'Alain ou Catherine. Non, c'est que peut-être des anges sont là, derrière nous, à un moment donné où c'est important. Voilà, les anges sont la première provision de Dieu. Et ensuite, par deux fois, il y a cette expérience, rappel de douceur où Jésus, où Dieu, où l'ange, Dieu lui-même au travers de tout ça, vient pas lui demander, c'est plus tard qu'il lui demandera « Que fais-tu ici ?» et qu'il engagera une discussion. Nous, des fois, on va engager tout de suite la discussion avec une personne qui est en difficulté. Ce n'est pas le moment. C'est très intéressant que plus tard, Dieu lui demandera « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Puis après, plus tard, il lui redonnera une mission. Puis plus tard, on y viendra tout à l'heure, il discutera avec lui. Mais là, l'ange ne discute pas, ne lui pose pas de questions, ne lui fait pas la morale et ne lui dit même pas, comme Dieu lui dira plus tard à grotte, qu'est-ce que tu fais ici ou pourquoi tu as fait ce chemin. Rien, rien, rien du tout. Il lui met un pot d'eau, un gâteau chauffé sur la pierre et il juste dit qu'il le touche. Douceur, bienveillance, tendresse de notre Dieu. Il vient dans l'épreuve, il ne dit rien dans un premier temps, il ne questionne pas, ne fait pas de reproches. Il le touche et il lui met à manger. et puis elle lit, ben, il s'endort. Vous savez, c'est bien quand on est fatigué, quand on est en tension, quand on a marché, c'est une des choses qui est le plus difficile à retrouver, c'est le sommeil. Première provision de Dieu, il lui donne exactement ce qu'il faut, il lui envoie un ange, et il peut manger et il peut se rendormir. Et il dit, ah ben maintenant, comme Catherine nous a dit, c'était bien Catherine que tu veuilles nous réveiller, mais il y a des temps pour le réveil, puis il y a des temps là. Il lui dit, ah maintenant c'est bon, hein, tu as eu à manger, maintenant tu vas y aller. Non, il se rendort, puis il laisse se rendormir. Puis qu'est-ce qu'il fait? Ben, il recommence, il touche une deuxième fois. Il lui remet un peu d'eau, et puis il lui remet encore un gâteau chauffé sur les pierres. Tendresse, bonté de notre Dieu. Et pas inquisiteur. Il y aura un temps, il faudra le mettre en route. Mais là, juste la tendresse de Dieu qui envoya un ange, et qui deux fois... Et s'il y avait eu besoin de trois fois, bon, c'est moi qui dis, hein, je n'ai pas obligé de le croire, c'est pas marqué dans la Bible, mais je crois que s'il y avait eu besoin de trois fois, eh ben, Élie aurait pu se rendormir, et lui aurait encore redonné une troisième fois un pain et de l'eau. Deuxième note que j'aimerais, et puis ce qui est intéressant encore dans cette première note, c'est qu'il dit que c'est une nourriture suffisante pour la marche que tu auras à faire. Dieu te donne une portion d'énergie, de vitalité suffisante. Nous, souvent, on pense que non, hein. Souvent, parce qu'on est trop fatigué, qu'on est trop, etc., etc. Quand on sort peut-être de son cadre, c'est possible qu'on ait trop, hein. Mais dans son joug qui est léger, il y a la portion suffisante pour ma marche et pour mon chemin. Deuxième petite note. On est parfois un petit peu dur avec Élie, en pensant que là c'est vraiment un peu heureux, hein. Il y a souvent des messages qui disent, voilà, il a tué tous les prophètes de Baal, il y a le feu du ciel qui est venu et tout ça, et puis là c'est un petit peu heureux qui part devant une femme, hein, Jézabel, là il a tout d'un coup, il ne croit plus en Dieu, il n'a plus... On est des fois un peu dur avec Élie, parce que ce qu'on voit dans ce texte, c'est qu'Élie finalement, il est toujours en dialogue avec Dieu, avec l'ange. Il s'endort, mais il se réveille, il prend la nourriture, il n'a pas boudé dans son coin, non, parce que nous, des fois, on est comme ça, on a la nourriture de Dieu, et puis on a le truc, non, je ne prendrai pas, non, tu as été méchant avec moi, non, puis je suis tout seul, puis donc je ne prendrai pas, non, des fois, on est comme ça, tu peux venir au culte, tu ne vas pas bien, viens au culte, non, je ne viendrai pas au culte, vous voyez, hein, on est comme ça, mais non, je ne prendrai pas, j'ai pris le culte à tout hasard, ça peut être autre chose, mais... Non, il accepte la nourriture, des fois, il faut aussi juste nous accepter aussi la provision de Dieu, des fois, on la veut pas, on la refuse et on se plaint après, il y a la provision de Dieu. Et après, quand il chemine avec lui, eh bien, Élie, sait reconnaître, ça je ne l'avais pas vu, j'ai découvert cette fois dans cette préparation, je ne l'avais pas vu, il sait reconnaître la voix de Dieu. Ça veut dire qu'il est quand même au top, ça veut dire qu'il est comme bien, il n'est pas juste dépressif, paumé, peur devant une femme. C'est un homme qui sait être là, entendre la voix de Dieu, dialoguer avec lui. Et il sait reconnaître que Dieu, quand il entend la tempête, nous on aurait peut-être été séduits, ah voilà, Dieu qui revient, c'est bon, le feu je connais, le feu il est tombé sur les prophètes de Baal, ça m'a fait justice, tout le peuple a reconnu que j'étais le bon contre les mauvais, ah le feu revient, je sors et je prends le feu et je vais au combat. Et non, il a su reconnaître que Dieu n'était pas dans le feu. Puis après il y a eu la tremblement de terre, il a dit, ah mais c'est peut-être mieux que le feu le tremblement de terre là. Il n'y a pas le feu qui descend, là, j'ai pas besoin de ça, c'est pas un brasier qu'il faut là. C'est un tremblement pour ces vilains israélites qui n'obéissent pas à Dieu. Alors, on va leur faire un peu, un peu peur, un peu quelque chose. Non, Dieu n'était pas dans le tremblement, etc. Et vous savez, quand on a des fois, on est mal, puis qu'on a peut-être un désir de vengeance, ou qu'on se sent seul, puis que les autres ont abandonné, on a peut-être envie un peu du feu de Dieu pour donner quelques fessées. On a peut-être envie, eh bien, peut-être qu'il en avait besoin, que, comme avant, il a bien aimé le feu de Dieu. Hein. Et là, il sait discerner que Dieu n'est pas. Que dans la leçon qu'il a à apprendre à ce moment-là, il doit attendre le souffle doux et léger, et que c'est là que Dieu est. Pour un prophète qui annonce la malédiction sur le peuple et qui fait descendre le feu de Baal, c'est un sacré discernement de savoir reconnaître à ce moment-là que c'est le doux murmure de Dieu qu'il a besoin, et pas du feu. Intéressant ça, vous l'avez pas remarqué. Il discerne bien la voix de son maître, donc il connaît Dieu. Et le texte est sans équivoque, quand Élie l'entendit, alors qu'il a entendu avant des choses, quand il l'entendit, il s'enveloppe le visage, sort et se tint devant Dieu à l'entrée de la grotte. Il est prêt à entendre le message. Il a discerné. Eh bien déjà, chapeau Élie, hein, tu fuis peut-être devant une femme, mais tu as l'essentiel, tu sais écouter ce souffle doux et léger, tu sais ne pas céder à la tentation du feu, du tremblement de terre, du jugement de Dieu, et tu sais sortir au moment du souffle doux et léger. Est-ce qu'on sait reconnaître la bonne forme de Dieu pour le bon moment? Une petite subtilité du texte. Pourquoi, alors qu'Élie vient de voir que Dieu est manifestement dans la manifestation du feu, si vous me passez l'expression, Dieu est manifestement un Dieu qui sait descendre avec le feu, Il vient de vivre l'expérience avec les 400 prophètes de Baal où le feu de Dieu est descendu. Comment il peut dire aujourd'hui, mais Dieu n'est pas dans le feu? Et j'ai été très interpellé de regarder, comme toujours, les petits détails du texte biblique. Pourquoi il a dit ça? Donc, on reprend le texte et voilà ce qui est dit. Et le feu de l'Éternel tomba quand tout le peuple vit cela. Ils tombèrent le visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais dans la grotte, voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut le feu. L'Éternel n'était pas le feu. Il n'était même pas dans le feu, mais le feu était devant lui. On dirait que je pinaille ou je chipote, pas du tout. Je crois que c'est là toute la différence. C'est que le feu, Dieu l'a utilisé, mais quand il n'a pas reconnu Dieu dans le feu était devant l'Éternel. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que ces circonstances que Dieu peut utiliser, qui sont le feu, le tremblement de terre, l'épreuve, peut-être même la maladie, ou peut-être même des choses terribles, ce n'est pas Dieu. Ça peut être devant Dieu, derrière Dieu, Dieu peut les utiliser, parce que Dieu est Dieu, et il fait ce qu'il veut avec la tempête, avec le feu, avec même l'épreuve, et même avec l'ennemi lui-même, il fait ce qu'il veut. Et il est Dieu, laissons-le être Dieu, même quand ça nous choque et que ça nous dérange, parce qu'autrement il ne serait pas Dieu, et ce n'est pas moi qui suis Dieu, donc ce n'est pas mieux qu'il sait. Donc Dieu devant, derrière lui, autour de lui, il y a tout ça. Mais ça n'est pas lui. Le feu était devant Dieu et n'était pas Dieu. Et c'est important de savoir dans nos tempêtes, au moment les plus difficiles, cette semaine dans notre village à Fontainebleau, un enfant de 2 mois est décédé d'un cancer, qu'est-ce que vous allez dire aux parents? Le père a dit « je ne crois plus ». Qu'est-ce que vous voulez dire, un enfant de... Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, on ne peut pas dire à la fois que Dieu n'y est pour rien, puis qu'il n'est pas responsable, qu'il n'y peut rien, etc., qu'il est au-delà de tout, puis en même temps dire qu'il tient tout dans sa main. Ça ne joue pas. Donc je n'ai pas de réponse. Mais je trouve très précieux dans l'épreuve les plus dures de me souvenir avec Ellie que Dieu n'est pas dans le feu. Dieu n'est pas dans l'épreuve. Il n'est pas l'épreuve. Il n'est pas le mal. Il n'est pas la maladie. Jamais. Mais la maladie, l'épreuve, le feu peut être devant lui, derrière lui, à côté de lui, en dessous de lui et tout ça. Mais il n'est pas cela. Et je ne dois jamais confondre, ça fait un bien pas possible dans l'épreuve, jamais confondre l'épreuve et Dieu. Dieu est toujours à côté de moi quand l'épreuve est en face. Il n'est jamais en face de moi, mon adversaire. Il est avec moi et l'épreuve est en face. Ensuite, comme je l'ai dit, il y a des temps, il y a le temps du questionnement. Il peut arriver un temps où Dieu te pose la question dans ta vie, que fais-tu ici, Élie? Ou que fais-tu ici, Océane? Bon, je sais, t'es au culte, c'est bien. Que fais-tu ici, Jean-Marie? Que fais-tu ici, Florian? C'est pas juste que Dieu ne savait pas où il était, vous comprenez bien. C'est une question existentielle. Mais au fond, maintenant, Élie, tu fais quoi? J'ai bien entendu tes crises hein, existentielles. Voilà, tu as eu une expérience très forte au Mont Carmel, il y a eu ces 400 prophètes tués, que je t'avais d'ailleurs pas dit de tuer, hein, je ne sais pas si Dieu lui a dit ça, mais en tout cas, c'est jamais dit, on a vu l'autre fois, hein, on est tout dans une phase sur Élie, vu que le leitmotiv de la vie d'Élie, et Dieu lui dit que, et la parole fait envoyer que ça, mais au moment où il tue les 400 prophètes, il n'a jamais dit Dieu lui a dit de les tuer. Intéressant. Est-ce que c'est une initiative personnelle? On laisse des petits points de suspension. En tout cas, il n'est pas dit Dieu lui a demandé ça. Donc, Élie est en cheminement, et cette fois c'est Dieu qui le questionne. Que fais-tu ici, Élie? Et il donne sa réponse, il dit plein de choses. Je suis resté moi seul, j'en ai marre du peuple, de toute façon il ne t'écoute pas, ça ne va pas comme je veux, maintenant ça suffit, laisse-moi, fiche-moi un peu. Bon, Dieu ne reprend pas, vous vous rappelez, il redonne à manger, puis il recommence. Et ce qui est intéressant, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'il répète exactement la même chose. On pourrait imaginer que cette question devait l'amener à répondre autrement la deuxième fois, quand il a repris de la nourriture, quand il a eu un dialogue d'amour avec Dieu. Peut-être, ça c'est tout à fait libre, c'est pas dit dans le texte, mais je postule que les questions de Dieu qu'il nous répète, c'est pour qu'on ne réponde pas toujours la même chose. Si Dieu te pose dans la vie plusieurs fois la même question, c'est peut-être qu'il aimerait conduire ta réponse à évoluer. Et pas dire, non, c'est comme ça, je ne peux pas, j'ai compris, c'est comme ça, non, je ne peux pas, de toute façon, même pas, de toute façon, puis ça ne va jamais, puis c'est... On a nos réponses toutes faites, à cause de nos blessures, à cause de notre cheminement. Et je suggère que Dieu attendait d'Élie une évolution, et qu'il y aurait eu un autre avenir pour lui s'il y avait eu une évolution dans sa réponse. Mais on voit, le texte biblique est clair, c'est une réponse assez longue, hein, qui touche plein de choses, lui-même, les autres, le peuple, etc. Il a bien son petit rituel, et on voit que sur ce plan-là, il ne bouge pas. Et je me dis que dans nos vies, c'est triste. C'est quand Dieu nous interroge, Dieu nous questionne tous, on ne bouge pas. On reste enfermé dans notre réponse stéréotypée. Non, j'en suis là, non, pas, je sais, de toute façon, je n'ai pas de ministère, de toute façon, je n'ai pas reçu le pardon, de toute façon, je n'ai pas eu la... Puis voilà. Ou je sais tout, de toute façon, la Bible dit que les femmes ne doivent pas parler dans l'église, donc c'est comme ça, pas de ministère féminin. J'ai ma théorie. Ou le contraire qui dit, de toute façon, je ne discute pas avec toi, parce que de toute façon, Dieu ne fait pas de discrimination, les femmes sont comme les hommes, il n'y a aucune différence, donc ce verset biblique, c'est Paul, mais je ne suis pas d'accord, je ne veux pas bouger. Hein, on a nos trucs debout, chacun. Et je suggère qu'on écoute les questions dans nos vies de Dieu pour que nos réponses évoluent. Deuxième petite remarque sur cette question, c'est qu'en fait, il y a une petite différence dans la deuxième question qui est posée. La réponse est toujours la même, mais la question, il y a une subtilité. La première fois, il est dit, l'Éternel lui pose la question. Et la deuxième fois, c'est par dit, l'Éternel lui pose la question. De nouveau, vous direz peut-être que c'est une subtilité, mais c'est souvent dans les détails, je trouve qu'il y a des richesses. Il est dit qu'une voix lui fit entendre cette deuxième question. Une fois, c'est dit clairement, Dieu lui pose la question, une fois, c'est une voix. Et je trouve intéressant aussi, peut-être que la deuxième fois, où ce n'est pas dit que c'est Dieu qui lui a reposé cette même question, c'était peut-être, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Lui-même, sa conscience, cet écho de Dieu qui résonne en lui. Peut-être un frère ou une sœur pour nous. Peut-être la nature, peut-être une circonstance, mais très intéressant que nous soyons invités à entendre plusieurs fois la même question pour des réponses différentes, pour un cheminement où on bouge, où on ne reste pas figé. Et intéressant de voir qu'une fois la question est posée par Dieu, mais que la deuxième fois elle peut être posée par nous-mêmes, par notre conscience, par les frères, par la nature, d'autres choses. Et je vous invite à écouter les questions qui vous sont répétées, peut-être pas par la même prophétie, peut-être pas par le même... papa ou enfant ou frère et sœur qu'on sait bien qui pense ça de nous. C'est peut-être une bonne question, mais on ne peut plus l'entendre de cette personne. Voyez? Mais on va la rentendre par l'amour de Dieu, c'est encore une provision de Dieu, prononcée par une autre voie, par un autre chemin. Encore une tendresse de Dieu pour Élie. Mais Élie confirme, pas d'évolution, malgré son expérience de la tendresse de Dieu, il reste figé. Comment Dieu va réagir quand son serviteur est fatigué, il le nourrit, il lui envoie un ange. Là, c'est le thème de ce message, la prodigalité de notre Dieu. Et quand je m'enferme, quand je mange deux fois, puis que je me rendors, puis que là, et puis que je ne veux pas bouger, puis qu'ensuite, eh ben, on me pose une question, puis que je réponds toujours la même chose, puis que je finis par dire non, j'en veux pas. Et Dieu dit, bon, mais t'en veux pas, tant pis, c'est bon, licencié. Non, pas du tout. Et là, dans cette deuxième partie du message, je vais voir avec vous quelques pas du Seigneur, encore sa tendresse, encore sa provision, même quand je dis non et que je dis encore non. Ça, c'est super. Déjà, quand tu es fatigué, Dieu vient avec un ange. Tu es encore fatigué, il revient avec un ange. Première chose. Deuxième chose, il veut te poser une question, il veut te conduire plus loin. Tu réponds la même chose, il te repose la question, il la pose même par d'autres. Deuxième tendresse de Dieu. Et quand non seulement tu manges, tu es reposé, tu ne veux pas cheminer. Non seulement on pose des questions, tu réponds toujours la même chose, puis que tu t'enfermes dans ton truc. Troisième étape, la tendresse de Dieu. Est-ce que Dieu va te renvoyer quand vraiment tu t'enfermes? Eh bien non. Dieu répond, malgré tout, non pas peut-être au projet que lui, Dieu, avait pour Élie, c'est ce que je dis que la suite aurait pu être différente, peut-être qu'il y avait un beau projet encore pour Élie dans lequel il n'est pas entré, des fois on passe à côté des choses, il faut savoir, quand on s'enferme, quand on ferme des portes, on peut passer à côté des choses, c'est vrai. Mais néanmoins, Dieu va jusqu'où Élie peut. Et là où il en est, dans ses besoins, il exprime deux besoins. Il exprime le besoin de sa fatigue et de sa lassitude dans le ministère, et le besoin de sa solitude, je suis resté moi seul. Il y a deux besoins psychologiques très précis qu'il exprime. Fatigue et lassitude du ministère, ça peut vous arriver, ça peut nous arriver. Et solitude, je suis resté moi seul. Et ces deux besoins psychologiques, malgré qu'il ait été nourri, malgré qu'il ait été réveillé, malgré que l'ange lui a pris à deux reprises, malgré qu'il lui pose des questions deux fois, malgré qu'il s'enferme, Dieu continue à cheminer avec lui et va répondre précisément, on va le voir dans le texte, à ses deux besoins exprimés. Vous imaginez la tendresse et l'amour de Dieu. Vous avez vu le nombre d'étapes qu'il y avait pour le nourrir, pour la fatigue, pour la parole, et encore quand je suis enfermé, là encore, il répond aux deux besoins exprimés d'Élie. Il ne conteste d'abord pas du tout sa lassitude, comme nous on fait des fois, du moins quand même. Élie, j'ai été avec toi, je t'ai accompagné, est-ce que je t'ai manqué une fois? Regarde tous les miracles qu'il y a eu dans ta vie, tu peux bien faire un petit effort, je suis là, révise ta théologie, quand même. Il aurait pu lui en dire plein, et ça aurait été juste. Pas un mot de ça. Pas un mot de ça. Dieu ne conteste pas sa fatigue et sa lassitude. Il l'accueille simplement comme ça, et il lui dit, ok, tu vas reprendre ton chemin, et on va nommer, et tu vas pouvoir former, un nouveau serviteur pour moi. Et c'est toute l'entrée en fonction d'avec Élisée. Donc il répond à son besoin. Tu es seul, tu es fatigué, tu t'estimes à bout, peut-être moi j'avais encore des projets pour toi, mais j'accepte. Et tu vas pouvoir former quelqu'un. Je ne te vire pas, je ne te dis pas maintenant, ben c'est fini avec toi, c'est toi encore, je vais prendre, on va cheminer ensemble, et tu vas pouvoir former quelqu'un. Et après cette expérience, ça ne s'arrête pas comme ça, il y a encore des expériences. Toute l'histoire, vous vous souvenez peut-être de la vigne de Naboth et d'autres expériences sont encore après cette époque. Donc, Élie, malgré son enfermement, n'a pas du tout été, tu veux arrêter, ben t'arrêtes. Non, il a continué avec lui, Élie a accepté, Dieu a accepté, il ne l'a pas pris au mot, il l'a accompagné, il y a encore des aventures avec lui. Mais, il prend au sérieux votre demande, notre demande, si on veut arrêter, il commence à nommer Élisée, et il doit aller oindre Élisée. Élisée quittait ses bœufs, courut après Élie, il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Il fut à son service. Vous imaginez ça? Élisée à son service. Nous, on dirait, Élie, tu veux plus? Bah, t'arrêtes. Puis maintenant, bah, tu nommes encore, je te fais encore l'honneur dans la grande cérémonie de oindre avec ton onction Élisée, mais maintenant, c'est lui, c'est plus toi. Élisée est au service d'Élie. Tendresse de Dieu, vous imaginez ça? La redevabilité, la culture de l'honneur, tout ça. Élie qui s'enferme, qui ne veut pas, qui répond toujours la même chose. Dieu continue à avoir une sollicitude extrême avec lui. Comment vivons-nous ces choses dans l'Église? Et puis deuxième chose, par rapport à l'autre besoin exprimé, mais en fait je suis tout seul, et puis le peuple j'en ai marre. Ils sont méchants avec toi, ils n'écoutent pas ce que je dis. Dieu lui répond précisément d'une information vraie et juste. Contrairement à une information des médias. Il y en a, je t'informe, Élie, toi qui es distordu dans ta pensée et par ta souffrance, et qui a une information faussée, tordue, comme chacun d'entre nous sur nos blessures, je t'informe qu'il y en a 7000 qui n'ont pas embrassé les statues, qui n'ont pas plié le genou, qui sont là. 7000, Élie. Alors, Jackie, Florian, CPDH, dans vos pensées parfois distordues sur ce qui va mal dans le pays, j'en ai 7000, j'en ai 10000, ça marche, je suis en contrôle, je tiens le pays, on va vers le royaume de Dieu, ça marche, je suis en contrôle, paniquez pas, n'ayez pas peur. Ça c'est le grand message d'Élie qui nous encourage. Oui, faisons nos actions, c'est rien con de ces PDH, je les fondais avec d'autres. Mais vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus en peur panique. On doit faire une action politique parce qu'il faut aussi qu'il va tomber, qu'il va, etc., etc., etc. Le pays au truc, il n'y a plus d'homme de Dieu. Non! Dieu est en contrôle. Il a son église, il a son peuple. C'est ça son peuple. C'est son église. Il prépare Israël, il prépare son église, il prépare l'éternité, il prépare le royaume. Paniquons pas, levons nos têtes. Rappel de la réalité vraie. Élisée est dans son enfermement, dans sa panique, ils sont méchants, j'en ai marre, ils ne te suivent plus. Et Dieu remet la vérité. Et prions pour qu'on entende vraiment la parole de Dieu sur nos vies, sur nos familles, sur son projet à lui, sur le pays, sa vérité à lui qui n'est pas distordue et tronquée par les blessures d'Élie. C'est normal, il souffrait de ça. Et Dieu ne lui a pas dit « tu n'as rien compris », il ne lui a pas dit « tu as tout faux ». Il a juste accompagné et il l'a encouragé en disant « Tu n'es pas seul, il y en a 7000. » J'aimerais terminer. Dieu nous connaît parfaitement. Dieu nous connaît parfaitement comme s'il nous avait fait. Souvenez-vous toujours de ça. Dieu nous connaît parfaitement, comme s'il nous avait fait. Il nous aime. Alors, je ne vous encourage pas à vous rendormir. Ce serait un peu contradictoire avec l'introduction de mon épouse, auquel je souscris pleinement, réveillons-nous. Je ne vous encourage pas à, quand vous recevez un pain chauffé sur la pierre, un cadeau, une bénédiction de Dieu, à la manger puis à vous rendormir. Je ne vous encourage pas, quand il vous pose une question, à fermer vos oreilles pour la suivante. Je ne vous encourage pas à répéter toujours la même chose, non. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut être détendu, même si on fait ça. Même si nos images sont distordues, même si on est blessé, même si on souffre de solitude, qu'on se sent seul, qu'on se sent incompris. Toute la suffisance, toute la provision de Dieu est là. Il est tendre et il nous aime encore et encore et encore. Dieu nous connaît parfaitement. Et le chemin, lui dit Dieu, est trop long pour toi. Tu veux t'arrêter de manger maintenant? Non, mange encore. Le chemin est trop long pour toi. Dieu connaît ton chemin mieux que toi. Et il va donc te donner une nourriture, des forces adaptées. Parce que Dieu sait que le chemin, même quand tu t'endurcis, même quand tu n'es pas en plein accord avec lui, le chemin est trop long pour toi, je vais répondre à tes besoins. Pas peut-être à tes envies, mais à tes besoins. Nous sommes invités donc par ce récit à vraiment recevoir la provision de Dieu, à nous ouvrir à sa provision, à ne pas avoir peur de ses questions, à y répondre en cheminant avec lui, plutôt que nous enfermer dans nos cavernes, à sortir avec ce souffle doux et léger, et vraiment savoir que Dieu a une parole juste face à nos mensonges que l'ennemi essaye de mettre et à nos propres mensonges qui nous font du mal. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons être devant toi ce matin, reconnaissant de ta toute suffisance, ta tendresse, ta provision. Merci parce que tu es un Dieu grand et bon, qui ne nous écarte pas quand nous voulons démissionner, qui continue avec nous encore et encore, qui sait que le chemin par lequel nous allons passer peut être difficile, peut être trop long, peut être trop dur, peut être fatigant. Et tu réponds à nos besoins. Tu sais, tu connais nos besoins. Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer parce que dans nos crises, parce que dans nos cassures, nos fêlures, nos solitudes intérieures, peut-être que personne ne connaît, nos questionnements, nos... chose que même un frère et une sœur ne peut pas comprendre, toi tu les comprends parce que tu nous as fait, tu nous aimes, tu nous tiens par la main, tu veux nous nourrir. Fais-nous simplement la grâce, Père, par ton Saint-Esprit, d'entendre tes questions, de cheminer avec ces questions et de recevoir ta vérité dans nos vies qui rend libre. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, prions. Est-ce qu'on peut juste tous se lever devant Dieu pour lui dire dans nos cœurs personnels, Seigneur, je veux entendre ta vérité, je veux entendre ta voix qui vient me donner vraiment ta direction juste, face aux mensonges de l'adversaire, face à mes propres mensonges, je reçois ta parole de vérité qui me libère. Je te bénis pour ta provision et je veux marcher en nouveauté de vie dans ta grâce. Amen. Amen. Amen.